Du genre dans l'histoire, épisode 11, femmes artistes, une catégorie à déconstruire.
Bonjour à toutes et à tous. Depuis plusieurs années à Paris et dans toutes les grandes villes du monde, les artistes féminines font leur apparition dans les musées et les galeries. Dans le sillage des études de genre et de l'histoire des femmes, les artistes ou photographes du passé, longtemps invisibilisés, sont redécouvertes et exposées devant un public ébahi de leur existence. Certaines artistes contemporaines parviennent à exposer leur travail, construire une œuvre et une renommée. Si cette évolution vitale pour le milieu de l'art est bien accueillie du grand public, il reste beaucoup à faire pour que les femmes artistes deviennent des artistes à l'égal des hommes. Les historiens et historiennes de l'art et du genre attirent l'attention sur la nécessité d'exposer, historiciser et analyser leurs œuvres autrement. Dans les cours d'histoire, les artistes femmes sont peu ou pas étudiées, et lorsqu'un tableau féminin est utilisé, on ne pose jamais sur lui de questionnement de genre. Par ailleurs, la représentation des femmes par les artistes hommes n'est jamais questionnée sous l'angle du genre. Aujourd'hui, alors que de nombreuses expositions sur les femmes artistes ont lieu à Paris, nous allons tenter avec Julie Verlaine de décrypter pour vous ces questions complexes. Bonjour Julie.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices ?
Bien sûr, je suis historienne, actuellement maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où j'enseigne l'histoire contemporaine, l'histoire culturelle, l'histoire du patrimoine et des musées. J'ai fait ma thèse sur les galeries d'art contemporain à Paris, à partir de 1945 jusqu'aux années 70. Et ensuite, je me suis intéressée à l'histoire des femmes collectionneuses d'art, des femmes mécènes, de plus en plus à des questions qui croisent le genre et l'art, les professions artistiques, donc que ce soit les artistes, les collectionneuses, les critiques et d'autres comme les conservatrices de musées.
Alors, on pourrait commencer par s'interroger sur la façon de nommer les artistes quand elles sont les femmes. En quoi l'expression « femme artiste » pose-t-elle un problème ?
Cette expression de « femme artiste », elle pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est la question de l'identité et l'identité de genre. Comme si, quand on dit « femme artiste », c'était le genre qui venait en premier et la profession ou l'activité, l'occupation qui venait en deuxième. Donc on est d'abord femme et ensuite artiste. Et évidemment, c'est la différence entre d'un côté l'expression « un artiste et de l'autre côté une femme artiste qui pose problème. Donc l'inégalité, l'asymétrie entre le traitement réservé à des hommes ayant comme profession artiste et des femmes ayant comme profession artiste. L'autre principal souci dans cette expression de femme artiste qui aujourd'hui est de moins en moins utilisée, c'est finalement la question de la légitimité de ces femmes comme artistes. En prenant d'abord leur genre, puis ensuite leur profession, on met en question leur légitimité comme professionnel. Et ça peut être un souci. Alors, ce qui est utilisé parfois, c'est artiste femme. Donc, en prenant d'abord la profession et ensuite le genre. Et c'est vrai que c'est un peu plus satisfaisant puisque dans ce cas-là, on catégorise au sein du monde des artistes certaines de ses membres dans ce groupe et on les distingue des autres.
Et est-ce qu'il y a d'autres mots dans le vocabulaire de l'art qui posent aussi les mêmes problèmes ?
Les mots sont très importants parce qu'ils reflètent justement les stéréotypes de genre qui sont en vigueur encore aujourd'hui. Plusieurs historiennes, et notamment des historiennes anglo-saxonnes, ont insisté sur les différences de connotation qu'il peut y avoir dès lors que l'on féminise certains mots. Le plus évident, c'est le mot « maître » ou « master » en anglais, qui est utilisé pour désigner des chefs d'atelier dès la Renaissance, à l'époque moderne et même jusqu'au début du XXe siècle. Le maître ou le grand maître ou le vieux maître va s'opposer, côté très positif, s'oppose à la maîtresse qui est en pli de connotations très négatives. Et on peut d'ailleurs élargir ça à d'autres fonctions dans le monde de l'art. Il y a la même asymétrie de connotations entre d'un côté, par exemple, le collectionneur, qu'on va associer à la conquête, le dynamisme, l'impétuosité masculine, face à la collectionneuse, qui souvent est particulièrement au XIXe siècle, va être associée à la maniaquerie, à la conquête, à la multiplication des conquêtes également, mais dans un sens cette fois négatif, et donc être utilisée comme un terme très péjoratif.
Les mots de chef-d'œuvre masterpiece et de maître ancien old master défendent une suprématie masculine des plus explicites, qui n'a aucun équivalent comparable au féminin. Si maître est prestigieux, maîtresse renvoie quant à elle plutôt à la sexualité, à l'illégitimité et à la subordination. Ces hésitations sont parfois tournées en dérision et deviennent une marque de mépris envers les femmes artistes afin de rabaisser leurs œuvres. Eva Belgerby et Charlotte Fouché-Zarmagnan, femmes artistes en quelques mots, dictionnaire du genre en traduction, mis en ligne le 19 avril 2021.
Alors depuis quand est-ce que la question de la présence des femmes parmi les artistes s'est-elle posée ?
C'est une question qui s'est posée très tôt, hein. Dès le XVIIe, XVIIIe siècle, il y a des artistes qui s'interrogent sur la faible part des femmes dans les ateliers en particulier, et aussi sur leur faible visibilité. Donc c'est quelque chose que l'on trouve dans les sources l'époque moderne. Néanmoins, c'est avec le mouvement pour le suffrage et les droits des femmes que cette question se pose encore plus, dans une dénonciation finalement de la moindre visibilité et des moindres possibilités de carrière des femmes. En termes de théorisation et d'études scientifiques, le vrai tournant, ce sont les années 1970, et surtout donc dans le monde anglophone. Aux États-Unis, Linda Nochlin en particulier a proposé en 1971 cet article absolument fondateur « Pourquoi n'y a-t-il jamais eu ou n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ?» où elle passe en revue les raisons pouvant servir à expliquer cette absence de grands artistes de sexe féminin. Elle commence par évoquer le fait que cette histoire de l'art s'est quasi exclusivement écrite au masculin, dans un premier temps, mais elle insiste beaucoup sur le fait qu'il faut chercher des causes beaucoup plus profondes, des causes sociétales, donc bien évidemment en termes d'éducation, en termes de société, de convenances, de normes, l'idée étant de pointer tous les obstacles qui ont empêché les femmes d'avoir d'aussi belles carrières et d'être autant reconnues que les hommes.
Avec l'objectif de les lever, ces obstacles.
Oui, elle essaye en tout cas de les lever dans le futur, mais son plaidoyer, et c'est pour ça que son travail est si fondateur, son plaidoyer est de recontextualiser la profession d'artiste, de bien comprendre les conditions dans lesquelles on apprend le métier, on s'intègre dans une communauté et on est ou pas reconnu par des institutions artistiques.
Alors justement, est-ce qu'il est possible d'évaluer la part des artistes femmes sur l'ensemble de la production artistique connue ?
C'est très difficile. Plus les recherches sur les artistes en général avancent, plus on retrouve des femmes. Et on a le même phénomène sur ce domaine de l'histoire que dans d'autres champs de la connaissance historique. De la même manière qu'il y a des silences de l'histoire quand on fait l'histoire des femmes dans différents domaines, de même, pour l'histoire de l'art, on ne cesse aujourd'hui de redécouvrir des figures féminines ayant créé d'une manière d'une autre durant une période donnée, et la liste des artistes femmes ne cesse de s'allonger, ce qui est quelque chose d'assez vertigineux, hein, d'ailleurs, puisque là, donc, je parlais tout à l'heure de 1971, l'article de Nochlin, il est certain qu'au moment où elle fait son énumération d'artistes, aujourd'hui on pourrait en donner 10 fois, 20 fois plus d'artistes qui ont été identifiés, documentés autant que possible. Et là encore, on est dans une méthodologie un petit peu différente et il faut vraiment faire parler les silences des sources, comme Arlette Farge et Michel Perrault pour d'autres sujets et d'autres périodes. C'est l'idée d'aller regarder dans les archives autrement pour retrouver des noms, et notamment pour les femmes artistes comme pour d'autres champs de l'histoire. Le changement de nom au moment du mariage est un obstacle majeur à l'identification d'un parcours, d'un itinéraire et d'une carrière.
Alors, nous allons essayer d'entrer maintenant un petit peu dans les détails et de comprendre quels obstacles se sont dressés sur la route des femmes artistes. D'abord, quels problèmes se posent aux femmes pour être formées ?
Ça, c'est un problème majeur et on a identifié de nombreux obstacles à la formation des femmes artistes avec quand même un basculement vers le pire finalement au cours du 19e siècle. Avant le 19e siècle, les femmes, comme les hommes, et donc les garçons comme les filles, étaient souvent formés empiriquement, sur le tas, dans l'atelier. Et la formation était une formation collective d'atelier. Et d'ailleurs, la pratique même de l'art se rapprochait à ce moment-là de l'artisanat. C'est comme ça qu'elle était considérée. Et donc, les femmes, qui étaient souvent filles de, épouses de, sœurs de, nièces de, étaient engagées donc, dans un groupe hein, et elles apprenaient la peinture, la sculpture et d'autres formes d'art sur le tas dans l'atelier. Ce qui, pour nous, pose des questions d'anonymat, puisque leurs productions sont souvent intégrées à une des productions collectives. Leur contribution a été d'autant plus occultée qu'elles étaient engagées dans le collectif. Après le développement des formations professionnelles, donc en gros, de la fin du XVIIIe siècle et surtout au cours du XIXe siècle, on a considéré et on constate que les femmes ont été mises à l'écart du développement de ces formations. Ces formations, comme les écoles nationales des beaux-arts, n'étaient pas mixtes, elles étaient fermées aux femmes. Un exemple parmi d'autres, hein, l'École nationale des beaux-arts de Paris n'a été ouverte aux élèves femmes qu'en 1897. Donc pendant tout le 19e siècle, une artiste désireuse d'apprendre auprès des grands maîtres de l'époque ne pouvait pas entrer à l'École des beaux-arts. Elle devait donc suivre des formations privées dans des ateliers dont certains, une petite partie, étaient mixtes.
Et à part le fait d'être acceptée dans une école, est-ce qu'il y a d'autres obstacles au fait que les femmes parviennent au statut d'artiste ?
Oui, ce qu'on constate, effectivement, c'est que progressivement, c'est évident déjà au XVIIIe siècle, mais plus encore au XIXe siècle, il est de plus en plus considéré comme inconvenant pour une jeune fille de prétendre vouloir être une artiste à part entière, à part égale d'un homme. Les familles bourgeoises ne considèrent pas le métier d'artiste comme un métier convenable pour une jeune fille. Et cela se traduit de plein de manières différentes dans les itinéraires de ces créatrices. D'abord, donc, on l'a déjà un petit peu dit sur la formation, même au sein des ateliers mixtes ou des ateliers accueillant un groupe de femmes et des groupes d'hommes, certains exercices d'apprentissage n'étaient pas permis, autorisés pour les femmes, comme l'étude sur le nu. Les femmes ne pouvaient pas s'entraîner sur des modèles vivants masculins de nu, contrairement à leur camarades hommes. Et puis, d'une manière générale, hein, la participation à des expositions, l'envoi de toiles au salon n'était pas considéré comme un geste convenable pour une jeune fille de la bonne société. Ce qui a dissuadé, on en a des traces dans plusieurs régions et dans plusieurs pays, ce qui a dissuadé des jeunes filles de se lancer dans une carrière d'artiste et ce qui les a cantonnées à une pratique artistique amateur. On a d'ailleurs des exemples assez poignants, je trouve, de témoignages de jeunes femmes ayant voulu devenir artiste et s'étant heurtées à tous ces obstacles. On a récemment republié le journal de Marie Bashkirtseff, qui a été donc artiste à Paris dans la seconde moitié du 19e siècle. Et dans ses lettres, comme dans son journal, on trouve des traces de toute sa frustration, de son agacement de n'être pas traitée comme les hommes et de ne pas avoir les mêmes chances qu'eux de percer et de montrer son art au grand public.
Jeudi 4 octobre 1877. Enfin, je travaille avec des artistes, de vrais artistes, qui ont exposé au salon et dont on paye les tableaux et les portraits, qui donnent même des leçons. Julien est content de mon début. À la fin de l'hiver, vous pourrez faire de très beaux portraits, m'a-t-il dit. Il dit que ses élèves femmes sont parfois aussi fortes que ses élèves hommes. J'aurais travaillé avec ces derniers, mais ils fument. Et d'ailleurs, il n'y a pas de différence. Il y en avait lorsque les femmes n'avaient que le modèle habillé. Mais du moment qu'elles font l'académie, l'homme nu, c'est la même chose. Mercredi 14 novembre 1877. Je n'ai de la femme que l'enveloppe, et cette enveloppe est diablement féminine. Quant au reste, il est diablement autre chose. Ce n'est pas moi qui le dis, puisque je m'imagine que toutes les femmes sont comme moi. Extrait du journal de Marie Bashkirtseff dans l'Europe des femmes, chapitre 10, Place aux artistes, publié en 2017.
Et est-ce qu'il n'y a pas, si on reste dans les obstacles, je pense à la question de l'espace pour produire, est-ce que pour les femmes c'est facile d'avoir un atelier ?
C'est très difficile, quelle que soit la période d'ailleurs. Hein, on sait l'importance depuis Virginia Woolf de la chambre à soi. De la même manière, pour une artiste, un atelier à soi ou un morceau d'atelier, un bout d'atelier, c'est essentiel. Et il est évident que n'étant pas, par exemple, admise jusqu'à la fin du 19e siècle dans l'École nationale des beaux-arts, beaucoup d'artistes n'ont pas eu accès à des ateliers qu'on pouvait leur prêter pendant une période donnée, quelques jours par semaine, etc. Donc, déjà, cela introduit finalement une différenciation sociale. Hein. Ce sont des femmes issues des milieux les plus aisés qui ont pu bénéficier d'un atelier à elles. Et cela a une influence essentielle sur le portrait collectif des créatrices entre la fin du 19e siècle et le milieu du 20e siècle. On voit une dominance de femmes issues des classes sociales très aisées, de femmes qui n'étaient pas obligées de travailler pour vivre, donc des rentières, des héritières, à qui la famille a passé cette passion qu'était la création plastique.
Oui, elle leur a laissé le champ libre, le temps, le droit de pratiquer.
Voilà, et cela a une autre influence intéressante sur le rythme de vie d'une artiste. Souvent, il y a des temps forts dans la carrière d'une artiste, c'est justement la jeunesse, hein, en gros, elle est de 15 ans à 25 ans. Il y a toujours, enfin, très souvent, un temps beaucoup moins intensif en termes de création. C'est le moment où elle se marie, où elle a des enfants et où on l'assigne à sa condition de femme, d'épouse et de mère et où elle éduque ses enfants avant tout. Et on voit arriver, dans beaucoup de cas, un temps de créativité très important plus tard, au moment où les enfants sont grands et au moment où elle peut enfin avoir du temps pour créer. Et ça, on le voit aussi bien d'ailleurs pour des itinéraires de créatrices que pour des itinéraires de mécènes, de collectionneuses. La relation à l'art, surtout au 19e siècle et au début du 20e siècle, est passée en retrait face aux impératifs posés sur elle par la condition féminine qui était la leur.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on recule dans le passé, si on va au XVIIe siècle, on va retrouver exactement les mêmes choses, c'est-à-dire les mêmes rythmes de productivité, les moments où les femmes ont un peu du temps pour apprendre la peinture, et puis celles où elles suspendent toute activité à cause des enfants. Et on va retrouver dans plein d'autres activités aussi intellectuelles. Enfin, c'est un rythme féminin.
Et aujourd'hui, on redécouvre beaucoup cette question de l'âge et du troisième, voire du quatrième âge. Et on croise donc des éléments de minorisation. Hein. Donc, ce sont des femmes, elles sont âgées. Et quand on croise les deux, apparaissent des contraintes sociales, culturelles très fortes qui pèsent sur elles.
Il y a aussi le fait que quand on regarde le parcours de certaines artistes qui ont réussi à être très connues, eh bien, on voit qu'elles ne se sont pas mariées, qu'elles n'ont pas eu d'enfants, enfin, que le fait d'avoir des enfants était vraiment un renoncement et que certaines faisaient le choix de ne pas en avoir.
Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on compare les statistiques de la population entière et de la population des artistes, il y a beaucoup plus de femmes non mariées, de femmes n'ayant pas eu d'enfants que dans la population générale. Ça, c'est une certitude. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'autres portraits d'itinéraires de femmes qui ont eu une vie de famille hétérosexuelle, qui ont eu des relations homosexuelles et qui ont eu une vie amoureuse et affective tout à fait riche. Donc cette question aussi des sacrifices que doivent faire les femmes artistes, il faut également beaucoup la nuancer, être très attentive justement à ce qui relève d'un choix, à ce qui relève de contraintes, à ce qui a été le saisissement d'opportunités. On parle beaucoup aussi du fait que certaines artistes ont été beaucoup des formatrices elles-mêmes, qu'elles ont privilégié des activités d'enseignement et de transmission. Ça, c'est quelque chose qui est une évidence, effectivement, quand on regarde beaucoup d'itinéraires, en particulier de femmes du début du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle. Elles sont souvent enseignantes et artistes, et il est évident que ça a des motivations économiques. Il s'agit de gagner sa vie, parfois de gagner sa vie pour deux, quand leur conjoint est également artiste. Le métier d'enseignante dans une école d'art ou dans une école d'art appliqué va être une manière d'apporter un revenu pour le foyer, mais c'est aussi des choix qui sont souvent revendiqués assez fortement par ces créatrices.
Alors, tu parlais tout à l'heure de la vie amoureuse des artistes. On a l'image assez classique des femmes muses d'hommes artistes. Et donc, est-ce que ce mode de relation qui existe souvent entre les hommes artistes et les femmes qui appartiennent aussi à ce milieu, est-ce que c'est un obstacle à la réalisation des femmes comme artistes ?
Oui, tout à fait. Il est évident que les conjoints artistes projettent une ombre sur leur compagne et que bien souvent, cette ombre va déformer la création et la créativité de leur compagne, va l'occulter aussi beaucoup. Alors, on a parlé ces derniers temps de couples célèbres et on a essayé de faire redécouvrir en toute autonomie, et je pense que c'est ça l'enjeu, l'activité de leur compagne, montrer par exemple que Dora Maar crée des photographies surréalistes remarquables alors même qu'elle est évidemment la compagne, elle a été la compagne de Picasso. Montrer par exemple aussi toute la créativité de Sonia Delaunay alors même que Robert Delaunay a été plus rapidement connu, reconnu et est entré dans les musées avant elle. Essayer d'identifier finalement la part de créativité, d'autonomie de ses compagnes d'artistes est parfois plus ardue que pour les artistes qui n'ont pas d'ombre sur elles. Alors, ça peut être leur compagnon, mais ça peut aussi être leur père, leur frère. Donc, dans ces milieux où les femmes artistes ont souvent des liens de parentèle avec d'autres créateurs, ces liens se sont souvent retournés contre eux. Il y a eu récemment un colloque consacré à cette question de la parentèle pour les femmes artistes et les actes sont en ligne et ils éclairent de façon tout à fait pertinente les ambiguïtés de cette relation-là. C'est un avantage puisque la femme est intégrée dans le monde de l'art, elle n'a pas à y entrer, elle y est déjà, mais c'est un énorme inconvénient en termes de reconnaissance, en termes d'autonomie de sa propre création.
Oui, et certaines artistes arrivent à dépasser complètement, je pense aux filles d'eux, je pense à Artemisia Gentileschi qui a beaucoup mieux que son père et qui fait une œuvre extraordinaire qui le dépasse, quoi. Et parfois, oui, elles parviennent à dépasser le père, mais on peut imaginer que c'est pas souvent le cas.
C'est pas souvent le cas et ça demande souvent un travail justement d'historienne ou d'historien de l'art pour essayer de faire la part des choses, d'identifier des signatures et ne pas donc céder à finalement des catégorisations faciles qui vont justement retenir le nom de l'homme, le père, le frère, le mari, et amalgamer finalement la production féminine à cette création. Gentileschi en est un exemple, Fragonard aussi, Marie-Anne Fragonard a été récemment reconnue comme autrice de plusieurs miniatures tout à fait essentielles qui étaient jusqu'alors attribuées à son mari Fragonard, et de la même manière pour plusieurs couples d'artistes, le travail qui est fait par certaines et certains aujourd'hui vise à réattribuer, comme on dirait d'un tableau, qu'on le réattribue à son créateur. Et de la même manière, encore une fois, on peut élargir ça à tous les mondes de l'art, les écrivains, les écrivaines, les collectionneurs, collectionneuses. Souvent, il y a eu une tendance dans l'écriture d'une histoire un peu rapide de l'art, une tendance à tout généraliser et tout mettre au masculin. Un exemple assez récent, c'est la redécouverte de la part décisive que Nelly Jacquemart a pu prendre dans la constitution de la collection Jacquemart André, son mari Édouard André n'ayant que finalement un rôle, alors certes essentiel puisque c'est lui qui avait l'argent, mais en termes de choix, en termes de goût et puis surtout en termes de postérité et de transmission, c'est Nelly Jacquemart qui a été bien plus déterminante, décisive pour l'avenir de ce qui est aujourd'hui le musée Jacquemart André.
Alors, on va maintenant s'intéresser au processus d'invisibilisation du travail artistique de ces femmes. Est-ce qu'il y a des critères institutionnels pour distinguer le grand artiste des autres artistes ?
Alors évidemment, ça dépend de la période sur laquelle on réfléchit, mais il est évident que sous l'Ancien Régime, à l'époque moderne, le grand artiste, c'est celui qui est distingué, celui qui entre à l'Académie royale de peinture, celui qui participe à des grands concours et qui bénéficie de commandes royales ou de grands aristocrates de la période. Donc le grand artiste est distingué par les signes extérieurs de succès que les puissants lui donnent. Dans cette perspective-là, les femmes n'ont pas bénéficié d'une reconnaissance comme grande artiste aussi importante. D'abord parce qu'elles sont extrêmement minoritaires dans les académies, par exemple, c'est 15 à 20% aux périodes où elles sont les plus nombreuses pour les femmes membres de ces académies. Et puis en termes de commandes ou de positions officielles à la cour, par exemple, ce sont des postes qui sont exclusivement masculins. Donc à l'époque moderne, le grand artiste, par définition, parce que c'est un système officiel, ne peut être une femme, ne peut pas être une femme.
Il y a quand même des femmes qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu et même qui ont été très très reconnues durant leur vie d'artiste.
Oui, certaines femmes ont eu une position importante, et notamment à la cour de France. On peut penser par exemple à Élisabeth Vigée-Lebrun, par exemple, qui est très connue, mais il y en a d'autres. Ces femmes-là sont devenues des portraitistes officielles, ont été reconnues, leurs œuvres ont été fortement demandées, donc elles ont été un temps à la mode. Néanmoins, on se rend compte aussi qu'elles ont eu beaucoup plus d'obstacles dans leur itinéraire que dont ont eu leurs homologues masculins.
Et puis après, elles sont reconnues de leur vivant, mais alors il se passe quelque chose d'incroyable quand elles meurent, quand elles disparaissent. Leur nom n'est pas retenu.
Ça, c'est un autre phénomène qui, effectivement, a souvent été décrit comme un cercle vicieux pour ces créatrices. C'est qu'une bonne reconnaissance de leur vivant pouvait tout de même donner lieu, dans la mémoire et dans l'histoire, à un effacement, une occultation, de façon assez marquée, d'autant plus marquée qu'elles étaient femmes. Et donc, même si cette question de la mémoire s'applique évidemment à des artistes hommes et femmes, on a constaté, et surtout au XIXe siècle et au début du XXe siècle, une écriture de l'histoire de l'art qui effaçait, occultait des figures féminines, ce qui, donc, en termes de cercle, a nécessité, à partir donc des années 1970-1980, une réécriture de l'histoire de l'art, de l'histoire aussi de la reconnaissance artistique et de la constitution des collections de musées. Puisque l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir effectivement où sont ces œuvres d'artistes. Pourquoi ne les voit-on pas quand on se promène au Louvre, au musée d'Orsay ou au musée national d'art moderne? Elles sont présentes dans les collections. On sait qu'il y a des milliers d'œuvres d'artistes femmes dans les réserves des musées. Elles sont très peu exposées sur les cimaises des musées, donc les murs sur lesquels sont accrochées les œuvres.
Elles sont très peu exposées et puis surtout, elles sont exposées de façon très particulière. C'est-à-dire qu'on a tendance à regrouper les femmes, les femmes et les artistes femmes et de faire des espèces de pot-pourri qui permettent d'exposer beaucoup de femmes en même temps autour d'une thématique, mais finalement, ne pas donner le privilège à une seule artiste femme.
Ça, c'est toute l'ambiguïté des stratégies possibles pour justement donner à voir les œuvres de ces artistes. L'une des stratégies qui a été employée, par exemple lors de l'exposition Elle au Centre Pompidou en 2009, a consisté à faire une exposition non mixte et à montrer qu'il était possible d'écrire l'histoire de l'art moderne et contemporain en n'exposant que des œuvres d'artistes femmes. Ce qui a eu l'avantage, me semble-t-il, de frapper un grand coup et de faire une démonstration sur la présence de ces œuvres dans les collections publiques. Donc ça a eu un bénéfice. En revanche, à moyen et long terme, on peut en douter de ce bénéfice, puisque une fois l'exposition terminée, que ce soit une exposition donc comme celle-ci ou une exposition plus temporaire dans un musée ou dans un centre d'art, une fois l'exposition terminée, les œuvres décrochées, on revient à des accrochages qui sont très très peu mixtes. On estime qu'aujourd'hui, dans les collections, ne sont exposées que 5 à 10% d'œuvres d'artistes femmes dans les parcours permanents des grands musées des beaux-arts en France, ce qui, évidemment, pose véritablement question. Évidemment, les musées sont dépendants de leurs collections, mais les travaux des chercheuses et des chercheurs montrent que ces œuvres existent, qu'elles sont dans les réserves et qu'il serait tout à fait possible de produire des accrochages qui rendent davantage compte de ces figures et de ces productions.
Depuis quelques années, de grandes expositions se sont succédées, en particulier elles font l'abstraction, femmes peintres et pionnières actuellement. Peux-tu nous expliquer en quoi ces expositions, louables dans leur attention, posent problème ?
Alors, ces diverses expositions, elles ont un point commun, c'est qu'elles ont constitué un groupe de femmes artistes comme groupe et qu'elles l'ont assez nettement et radicalement séparées des créateurs de sexe masculin de la même période. Ce faisant, elles contribuent aussi, de façon souvent involontaire, à une ghettoisation des artistes femmes en coupant leur création, leur créativité de celle de leurs homologues masculins de l'époque. Par ailleurs, souvent, ces expositions sont mues par cette idée de rendre justice à ces femmes qu'on va qualifier donc de pionnières, d'avant-gardistes, de méconnues, d'inconnues, et qu'il va s'agir donc de présenter au grand public en leur rendant justice. Et cette démarche-là va avoir tendance, in fine, à les singulariser encore plus, à mettre en avant leur contribution et leur talent, et donc finalement à reprendre des mécanismes de singularisation et d'exclusion qui sont propres à la tradition des grandes expositions sur les artistes hommes, sans réfléchir à ce qui est pourtant essentiel dans cette perspective des itinéraires de femmes artistes, qui est les conditions sociales, politiques et économiques dans lesquelles elles ont pu créer et être ou pas reconnues d'ailleurs.
Il fut un temps où elles n'avaient pas vraiment de nom. C'était elle, tout simplement. Elle, une famille indifférenciée, déchirée, infiniment vaste. Un océan qui ne faisait guère de vagues. Quand l'exposition Elle au Centre Pompidou fut montée à Paris en 2009, avec 350 œuvres de 150 artistes femmes, le débat fit rage. Pourquoi les enfermer dans un ghetto quand il s'agirait avant tout de les en sortir, s'inquiétaient les uns. À travers cette sélection garantie à 0% de testostérone, après des décennies d'hyperdomination masculine, l'institution ne cherchait-elle pas tout simplement à se dédouaner avant de passer vite à autre chose ? 10 ans auront bientôt passé, et quelques victoires semblent pourtant avoir été bel et bien remportées dans cette guerre des sexes, sans que les débats ne s'apaisent pour autant. Extrait de l'article d'Emmanuel Lequeux, « Femme artiste, la fin d'un cauchemar », publié dans le magazine Beaux-Arts le 28 décembre 2017.
Alors, est-ce que tu as des propositions à faire pour améliorer ces choix d'exposition ?
Alors, les choix, il faut les laisser quand même aux femmes de musée et hommes de musée. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que, justement, peut-être qu'une plus grande attention aux avancées récentes de la recherche sur l'histoire sociale des artistes pourrait permettre de contextualiser davantage, de poser davantage la question des contraintes et des singularités ou au contraire des homogénéités entre des parcours individuels et collectifs. Il me semble que ces expositions, en contextualisant davantage l'insertion de ces créatrices dans un monde de l'art en mutation, au-delà, dans une société en mutation, permettrait bien davantage de comprendre, d'une part, leur itinéraire biographique, mais aussi le sens de leurs œuvres. Bien souvent, ces expositions manquent cruellement de contextualisation historique, et notamment de mise en relation entre les évolutions de la condition féminine à une époque donnée, dans une société donnée, et les thématiques des œuvres qui sont exposées. Dans le cas, par exemple, de l'exposition Pionnière, qui est actuellement présentée au musée du Luxembourg, l'effort qui est fait hein, de contextualisation sur les mutations très importantes de la société française de l'entre-deux-guerres aurait pu être très largement encore approfondi de manière à questionner la façon dont les œuvres prennent acte de ces mutations des conditions féminines, à la fois du rapport au travail, du rapport au corps, du rapport à la mode, du rapport à la musique, etc. Et cette toile de fond de la création plastique est souvent en fait assez peu développée. On pourrait imaginer qu'il y ait des expositions qui mettent en valeur non pas tellement des figures féminines exclusivement, mais des collaborations, par exemple conjugales, par exemple dans un groupe. C'est ce qui a été notamment tenté dans l'exposition Toyen au Musée d'art moderne de la ville de Paris, où certes la figure de cet artiste assez exceptionnel, surréaliste, est absolument centrale, mais où tout le propos de l'exposition est de montrer comment elle évolue dans sa création, mais aussi dans son rapport au monde et dans sa découverte de différentes œuvres, notamment littéraires, au contact avec d'autres artistes qui sont majoritairement de sexe masculin, mais pas uniquement. Et donc essayer de situer un itinéraire personnel dans les représentations, les goûts partagés d'une époque donnée pourrait déjà, me semble-t-il, apporter davantage au public pour situer ces artistes femmes. Parce que ces expositions donc collectives sont toujours un peu hors sol et elles ont tendance à présenter... Alors, un groupe, parfois très important, comme dans Elles font l'abstraction, hein, ce sont des dizaines de créatrices qui sont rassemblées dans un parcours chronologique, mais elles atomisent de façon assez pernicieuse, me semble-t-il, leur création, alors que cette création, c'est évident pour les avant-gardes artistiques depuis 1880, ces créations sont profondément ancrées dans un milieu culturel, un milieu artistique, au sein de collaborations, d'expositions, de groupes, de positionnement d'un groupe par rapport à l'autre, et on ne comprend rien à l'histoire de l'art si on ne connaît pas justement les différentes positions de ces différents groupes. Et quand on veut travailler sur ces femmes artistes, ça leur fait du tort, me semble-t-il, que de ne pas les rattacher à ces groupes. Donc, contrairement à la tendance qui consiste justement à les porter au pinacle, à leur rendre justice et à essayer de démontrer en quoi elles avaient un talent digne d'un Picasso, il me semble au contraire que la bonne méthode serait de repartir de l'art comme activité sociale, comme activité collective, et de bien montrer les contributions souvent mésestimées, méconnues, de certaines contributrices dans un mouvement donné. C'est ce qui se passe actuellement pour le surréalisme, c'est ce qui se passe pour l'abstraction, et puis la performance et les courants d'art contemporain. Donc on essaye de remettre un coup de projecteur sur certaines participantes qui ont été moins valorisées par des achats et des signes de reconnaissance, sans toutefois faire l'ombre tout à côté.
Oui, ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans l'exposition Toyen, c'est le fait que on ne sait rien de sa vie amoureuse, ses enfants, sa vie familiale. Enfin, elle est vraiment conçue comme une artiste à l'égal d'un homme. Et on voit ses réseaux d'amitié. On peut voir quelles relations ont une influence sur elle, mais elle n'est pas, son œuvre n'est pas essentialisée. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
Oui, c'est ça. C'est ne pas poser comme principe de départ que le genre va être le déterminant principal. Ce qui va être déterminant dans le cas de Toyen, c'est son intégration d'abord à Prague puis à Paris dans des réseaux qui vont énormément stimuler sa créativité, son imagination. Et on suit à travers l'exposition l'évolution au contact de ses amis artistes, l'évolution de sa propre création.
Ne faudrait-il pas aussi que les musées modifient leur politique d'acquisition des œuvres ?
C'est sûr que quand on regarde un petit peu hein, sur les dernières décennies, le nombre d'œuvres acquises par les musées qui sont réalisées par des femmes ou par des hommes est très inégalitaire. Alors, certains musées, notamment aux États-Unis, ont pris le contre-pied de cette tendance en décidant, par exemple, de consacrer le budget annuel d'acquisition uniquement à des œuvres produites par des femmes, donc ça a été le cas à Baltimore il y a quelques temps, et d'essayer justement de réparer ces inégalités, ce déséquilibre entre œuvres d'artistes femmes et œuvres d'artistes hommes. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les commissions d'acquisition réforment un petit peu leur manière de penser, qu'elles soient plus inclusives en général. Il s'agit d'ailleurs d'un combat qui n'est absolument pas uniquement celui des femmes, mais plus généralement que les acquisitions des musées, en particulier des musées d'art moderne et contemporain, s'ouvrent davantage. Alors à quoi ? À des œuvres produites par des personnes autres que des hommes blancs occidentaux, mais aussi peut-être à d'autres formes d'œuvres, puisque l'un des points essentiels, que ce soit donc dans le passé ou aujourd'hui, ce sont les supports sur lesquels les femmes vont davantage créer que les hommes. On redécouvre aujourd'hui des œuvres qui sont par exemple des œuvres textiles et qui ont pendant très longtemps été déconsidérées comme ne faisant pas partie du répertoire d'un grand musée d'art moderne et contemporain au même titre que la peinture et la sculpture qui, elles, y avaient toute leur place. L'art textile aujourd'hui est en train d'être redécouvert et cette redécouverte s'accompagne justement d'une réflexion sur la créativité dans le textile, dans la broderie, dans le tissu, le tissage. Et là apparaissent des figures féminines de premier plan, à la fois dans les expérimentations, mais aussi dans la réinvention des traditions et encore dans la transmission. Il y a eu il y a quelque temps une exposition au Musée d'art moderne de la ville de Paris du couple Albers, et il est évident que l'une des découverte de cette exposition, c'était toutes les créations textiles de Annie Albers qui a démontré un talent exceptionnel pour la transposition de formes abstraites géométriques dans des tissages qui étaient présentés de façon égale des œuvres plastiques traditionnelles dans l'exposition.
Alors justement, partons du tissu, en quoi est-ce qu'il est vraiment indispensable pour l'histoire de l'art, de reconsidérer les œuvres féminines et puis de se constituer un véritable matrimoine.
C'est quelque chose qui permet d'élargir notre catégorie d'art, tout simplement. On est en train d'essayer justement d'ouvrir un petit peu cette catégorie, de ne pas se cantonner aux beaux-arts, ni même aux arts décoratifs, mais de définir les pratiques artistiques d'une façon qui soit plus large, plus inclusive, comme je le disais, donc qui rassemble à la fois des œuvres d'artistes professionnels et d'artistes amateurs. Ça, c'est un point essentiel. Des œuvres qui sont sur des supports différents, donc prestigieux et moins prestigieux, éphémères ou plus durables, et d'une manière générale, de réexaminer des types de créations qui sont trop peu encore patrimonialisées. Le phénomène a déjà bien commencé pour la photographie, par exemple, qui a été un champ d'expérimentation important pour des créatrices. C'est en cours aussi pour le textile qui, de la même manière, amène à la fois des recherches et la redécouverte de certaines créatrices. Il faudrait que ça s'étende à bien d'autres formes et d'autres supports. Aujourd'hui, par exemple, il y a une importante communauté de femmes dans le street art qui s'exprime sur des murs, souvent de manière éphémère et dans une communauté nébuleuse d'artistes. De la même manière, il faudrait que cette mixité de la scène contemporaine soit davantage prise en compte et montrée au public. Ça amène à réfléchir effectivement à ce que serait le matrimoine.
Ça amène aussi à réfléchir à un art plus inclusif.
Ce qui est sûr, c'est que ce qui se produit aujourd'hui, c'est une plus grande visibilité de pratiques artistiques actuelles qui, finalement, ont comme point commun de valoriser le trouble dans le genre, c'est-à-dire d'aller au-delà de la catégorisation systémique entre le masculin et le féminin, d'avancer l'existence d'un art queer, d'un art non-binaire et un art qui va être donc porté par des plasticiennes et des plasticiens qui se représentent eux-mêmes comme non-binaires. Ces performances, ces expérimentations plastiques sont visibles, mais encore très confidentielles, dans des petites galeries à Paris ou en région. Et c'est sans doute aussi le reflet, et encore une fois, la preuve de cet effet de miroir entre les créations plastiques et les réflexions de notre époque. Et il est certain que que plusieurs propositions de ces artistes, visant donc à dépasser la dichotomie entre le masculin et le féminin, sont porteuses de toute une réflexion que je trouve personnellement très stimulante sur les catégories, les assignations. Et donc, quand on fait retour en historienne et en historien sur tout ça, sur la volonté de déconstruire les représentations.
Oui, pour conclure, on pourrait dire que dans le domaine du genre, l'art a encore du pain sur la planche. Comme d'habitude, nous allons maintenant nous interroger sur la présence des femmes artistes dans les cours du secondaire. Et vous allez voir que là aussi, on a du pain sur la planche. Comme d'habitude, Clémentine nous a rejoints et elle va nous faire son expertise programme.
Donc, j'ai épluché les programmes pour voir un peu où est-ce qu'on peut parler des artistes femmes à l'école et la conclusion est assez simple, à peu près partout et nulle part. Je m'explique. À peu près partout parce qu'en fait, les programmes scolaires ne sont pas injonctifs. Par exemple, en cinquième, dans la quatrième partie du thème 1, on doit travailler sur la vie et l'œuvre d'un artiste ou d'un mécène. Si le programme utilise le masculin, rien ne nous empêche de le traiter au féminin, bien évidemment. Mais encore faudrait-il, comme toujours, que les enseignants et enseignantes aient le désir de féminiser cette partie du programme et d'avoir les connaissances qui leur permettent de le faire. Parce qu'en effet, le fait que le texte officiel utilise le masculin n'est pas très engageant si on ne s'y connaît pas en art et surtout en artiste femme. On va retrouver le même type de questions, que ce soit au collège ou au lycée, à chaque fois qu'on va travailler sur la Renaissance. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on travaille sur cette période historique, on a la possibilité de parler d'artistes femmes, mais les programmes vont nous pousser à étudier plutôt des artistes hommes, comme Michel-Ange et la Chapelle Sixtine, ou Léonard de Vinci, et très peu, voire pas du tout, d'artistes femmes. On aurait pu avoir l'espoir qu'en avançant dans l'étude de l'époque moderne, on ait davantage de références de femmes et que les enseignants et enseignantes auraient pu trouver de l'aide pour féminiser leurs propos, mais bah, c'est pas le cas. En épluchant ainsi tous les programmes du secondaire, j'ai découvert l'existence d'un thème transversal au programme de troisième qui s'appelle « Les arts, témoins de l'histoire du monde contemporain » que je ne connaissais pas et mes collègues non plus, ce qui dit à peu près tout d'à quel point cette part du programme est vraiment très connue. Donc l'idée de ce thème transversal, en fait, c'est d'inciter les enseignants et enseignantes à ajouter des artistes et des œuvres d'art tout au long du programme d'histoire. Pour ça, ils utilisent une liste, et dans cette liste d'artistes cités, il y a quand même quelques femmes. Notamment, on trouve Colette, Simone de Beauvoir, Louise Bourgeois, Sonia Delaunay, Gerda Taro et Joanne Baez. Bon, c'est quand même très peu, mais bon, c'est là. Mais globalement, hein, soyons clairs, les enseignants et enseignantes vont devoir, comme d'habitude, se débrouiller toutes seules pour pouvoir mettre un peu de femmes dans leurs cours. Donc pour faire cela, faut pas se leurrer, on a besoin des manuels scolaires. Je suis alors allée éplucher tous les manuels scolaires d'histoire de la 6e à la terminale et le constat n'est pas très reluisant. Les manuels scolaires qui présentent le plus d'œuvres d'artistes femmes en comptent, en tout et pour tout, 5.
Et les autres ?
Certains n'en comptent pas du tout. C'est-à-dire donc que sur une totalité de quasiment 200 à 250 pages d'un manuel scolaire, on peut n'avoir strictement aucune œuvre de femme. Ce qui fait qu'on estime que c'est plutôt bien quand le manuel en compte 5. Alors que soyons clairs, 5 c'est rien du tout. J'aurais dû compter le nombre d'œuvres d'artistes hommes pour que le ratio soit plus parlant. Enfin, ça aurait été en quelque sorte surprenant. Il y a même des manuels qui mettent des œuvres d'artistes femmes, mais sans les nommer. Comme ça, hop, une œuvre, pas de nom d'autrice. J'ai même vu une œuvre présentée dans 3 manuels différents du même niveau et un seul nommait l'artiste, les 2 autres ne le mentionnaient pas. Ce qui est tout de même assez significatif. C'est Leslie Gilbert Illingworth, une caricaturiste du Daily Mail durant la guerre froide. C'est elle qui a dessiné, en 1962, une caricature représentant Khrouchtchev et Kennedy faisant un bras de fer en étant assis sur une bombe H afin d'illustrer la crise de Cuba. Après, dans tous ces documents réalisés par des artistes femmes que ces manuels présentent, tous ne font pas l'objet d'une étude de documents. Souvent, la moitié, voire les 2/3 de ces documents, sont dans les parties de manuels intitulées « et après ». C'est donc des pages de manuels où il n'y a pas de questionnement proposé sur les documents et qui servent juste d'illustration. Donc soyons clairs, c'est souvent les pages des manuels qu'on ne regarde jamais vraiment. En ce qui concerne les programmes de lycée, beaucoup de ces documents réalisés par des femmes sont là uniquement pour illustrer un cours. Alors c'est aussi dû à la manière dont les programmes du lycée sont pensés depuis la réforme, où ce sont généralement seulement les sujets des PPO, donc les points de passage et d'ouverture, qui bénéficient d'analyses de documents. Mais il y a quand même relativement peu de questionnements proposés autour des documents qui illustrent la partie du cours du manuel, et c'est souvent là qu'on a des œuvres d'artistes femmes. Dernier point enfin, peut-être le plus intéressant et important, Généralement, on trouve des illustrations faites par des femmes dans des sujets où l'on parle des femmes. Par exemple, la plupart des œuvres que j'ai trouvées trouvent leur place dans les études sur Émilie du Châtelet, où l'on va trouver d'abord des documents, des tableaux peints par des femmes, mais c'est pas dans tous les manuels, et ce n'est pas en très grande quantité non plus. Donc, même constat que d'habitude. Si les enseignants et enseignantes ne sont pas eux-mêmes et elles-mêmes formés, ne connaissent pas bien le sujet, ne savent pas quels documents chercher, quels artistes femmes aller chercher, eh bien c'est très difficile de parsemer ces corpus documentaires d'œuvres de femmes. Donc on comprend bien que si l'envie de le faire n'est pas très présente, toutes ces difficultés que je viens de citer constituent un réel frein pour que les enseignants et enseignantes féminisent leurs cours, et c'est vraiment ça qui est un réel problème.
Aujourd'hui, on ne va pas nécessairement vous proposer des adaptations clés en main pour vos cours, mais par contre, on peut vous donner des conseils. Moi, personnellement, je mets des œuvres de femmes dans tous mes cours. Déjà, c'est un principe, et c'est possible, et c'est même assez facile, en fait. Pour toute l'histoire contemporaine, ça, 19e, 20e siècle, il n'y a vraiment aucune difficulté à trouver des œuvres féminines. Et puis, j'utilise aussi beaucoup les photographies féminines à partir du 20e siècle, y compris pour illustrer des questionnements politiques, des guerres ou des problèmes diplomatiques. Donc là aussi, c'est un choix, c'est-à-dire que je vais chercher les photos, ça m'intéresse et j'essaie pas nécessairement de voir s'il y a un regard féminin porté sur la guerre ou sur la politique. Je montre simplement qu'on peut trouver des hommes et des femmes qui font le même travail, qui sont présents sur le terrain, qui font des photos de même qualité. Bref, j'essaie de créer de la parité dans les documents que j'utilise. Et je pense que c'est un premier réflexe qu'il faut avoir, celui de la parité. Il y a des hommes et des femmes qui sont artistes ou qui sont photographes, qui sont sculpteurs, qui créent des chansons, qui créent des musiques. Bref, c'est énormément de sources pour nous, les enseignants. Et il faut aller absolument se forcer à ne pas utiliser que les manuels scolaires, mais sortir, aller dans les musées, aller dans les expositions, regarder des documentaires, bref, s'informer, se cultiver, s'y intéresser. Et puis, aller puiser partout sur Internet, profusion d'images, vous pouvez aller les chercher et puis les utiliser dans vos cours. Je pense que déjà, ça, c'est première étape.
Et pour les collègues qui n'y connaissent rien, par où est-ce que tu leur conseilles de commencer si ils ou elles veulent chercher des documents iconographiques, par exemple, d'artistes femmes ?
Alors, les documents iconographiques, on va les trouver assez facilement, mais c'est vrai que dans la recherche, il faut déjà savoir ce qu'on cherche. Et donc, dans une recherche sur Internet, en termes de mots-clés, on peut utiliser « femme artiste »,« artiste femme », on peut rentrer des périodes et puis on va tomber sur des œuvres. Maintenant, si on veut un travail qui est plus précis et de plus grande qualité, on peut aller sur des sites que vous connaissez déjà. L'Histoire par l'image, par exemple, propose des œuvres féminines et des analyses qui sont intéressantes, parfois aussi des pistes bibliographiques, donc ça peut vraiment déjà aider à démarrer. Vous pouvez aussi aller sur la base Joconde qui répertorie l'ensemble des œuvres qui existent dans les musées français et donc trouver des œuvres peintes ou produites par des femmes. Et puis pensez que les grands musées souvent font des dossiers pédagogiques pour les enseignants et lorsqu'il y a des expositions, on vous donne toutes les informations que vous avez besoin de savoir pour organiser une visite ou pour inclure l'artiste dans vos cours. Donc il y a plein d'entrées possibles. Bien sûr, ça ne suffit pas, ça peut suffire à trouver une image, ça ne vous suffira peut-être pas à connaître l'artiste que vous allez utiliser. Et là-dessus, je voudrais un peu alerter, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec Clémentine, mais attention à ne pas utiliser des œuvres féminines uniquement de façon illustrative, pour décorer ou pour se donner bonne conscience. Ce qui est intéressant lorsqu'on utilise une œuvre réalisée par une femme, c'est de connaître bien cet artiste de façon à pouvoir véritablement l'utiliser et que ce soit pas juste un prétexte, mais qu'on l'étudie vraiment en soi, comme une artiste à part entière et pas de façon marginale. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans le cours sur la Renaissance, on vous incite à étudier des artistes masculins parce qu'ils sont plus connus et comme l'idée c'est de transmettre des connaissances aux élèves, on attend de vous que vous transmettiez des connaissances de base. Et justement, notre propos c'est de montrer que dans les connaissances de base, il faut aussi transmettre la connaissance des artistes féminines. Donc rien ne vous interdit d'aller présenter des femmes peintres, des femmes sculptrices, de non seulement de montrer leurs œuvres, mais aussi d'en parler, de parler des conditions de production, de parler du mouvement artistique auquel elles appartiennent, de parler des personnes qui leur ont permis de travailler. Enfin bref, de faire un vrai travail d'analyse de leurs œuvres avec vos élèves. Et ça, vous pouvez le faire au collège et vous pouvez le faire encore au lycée, même si c'est vrai que le programme de seconde sur la Renaissance insiste sur Michel-Ange et la chapelle Sixtine. On peut très bien imaginer de comparer le travail de Michel-Ange avec le travail d'une artiste de la fin du XVIe siècle. Je pense en particulier à Sofonisba Anguissola, qui était une très grande artiste italienne qui en fait a travaillé à la cour d'Espagne pendant des décennies, qui était la maîtresse de peinture de la reine d'Espagne, qui l'a aidée à élever ses enfants, et puis ensuite qui a été dotée par le roi d'Espagne. Et bref, elle a une histoire passionnante et tout aussi passionnante que les artistes masculins. Donc tout ça nécessite effectivement d'aller trouver des informations, mais vous les trouverez sans difficulté à partir du moment où vous entrez son nom dans votre moteur de recherche sur Internet. Merci beaucoup Julie Verlaine.
Merci, au revoir.
Vous pouvez retrouver la bibliographie qui concerne cet épisode sur notre site internet et elle pourra vous aider et vous aiguiller à réfléchir sur la question des femmes et de l'art. Ce podcast vous a été présenté par l'association Mémosine pour l'histoire des femmes et du genre, avec à la production Cécile Béguin, à la réalisation Fanny Cohen-Moreau et à la lecture du texte Clémentine Letellier. Dans le prochain épisode, nous recevons une véritable bande pour nous parler des femmes en armes entre l'époque moderne et nos jours.